L'actualité de notre région avec les agriculteurs des Hautes-Alpes dans les rues.
La grogne monte face au plan sécheresse. Il durcit pour les trois prochaines années les mesures de restriction d'eau. Les syndicats d'exploitants dénoncent un acharnement administratif. L'agriculture qui était au cœur de la visite hier de Joël Giraud, dernière visite officielle avant la période de réserve pour le ministre des Territoires. Il a posé la première pierre de la maison des agriculteurs à Gap.
L'inquiétude des professionnels du BTP.
Il sue face à la flambée des coûts de l'énergie, mais surtout redoute que les chantiers en cours leur coûtent de l'argent.
La solidarité pour l'Ukraine continue d'envoyer des convois sur les routes.
Nouveau convoi de la solidarité qui partira ce matin depuis Gap, demain du côté de l'Argentière-l'ABC. Depuis plusieurs jours, les habitants de la communauté du Pays des Écrins jouent la carte de la solidarité. Reportage au Vigneau et à l'Argentière.
Et puis en sport, une dernière course pour un globe de cristal.
Il n'a plus son destin en main, c'est Terence Tchiknavorian. En effet, le champion olympique Ryan Reguez a profité de la déconvenue de l'Ubaïen la semaine dernière pour marquer 41 points d'avance. Rendez-vous ce week-end à Vézonnet en Suisse. Côté météo, c'est encore gris pour ce vendredi.
Les temps toujours nuageux, notamment le matin. Quelques petites averses éparses qui se développeront en cours d'après-midi sous un ciel toujours bien chargé. Côté température, ça fléchit un petit peu. Les maxis de 12 jusqu'à 17 degrés. Par crainte de se retrouver à sec, les agriculteurs seront donc dans la rue ce matin.
C'est le plan sécheresse appliqué dans les Hautes-Alpes qui les fait bouillir. Un plan en cours de finalisation qui encadre pour 3 ans les restrictions d'eau pour les usages domestiques, industriels ou agricoles. Sauf que les syndicats d'exploitants redoutent trop de restrictions, notamment sur les bassins versants du Drac et du Buëch, car le texte prévoit de baisser les seuils de déclenchement et dans le même temps d'accélérer la mise en œuvre des restrictions de 7 jours à 5 jours et de ralentir par contre la sortie de ces mêmes restrictions à 10 jours au lieu d'une semaine aujourd'hui. La Confédération paysanne y voit un acharnement administratif, un catastrophisme climatique injustifié de l'État, approximatif, non adapté pour les jeunes agriculteurs et la FDSEA. Rassemblement donc ce matin à 9h30 devant la préfecture des Hautes-Alpes à Gap. L'agriculture qui était au menu de la dernière visite officielle de Joël Giraud. Ça y est, la période de réserve est ouverte. Le désormais nouveau ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales a donc tenu à faire son dernier déplacement dans son département. Et donc, il a pu poser la première pierre de la maison des agriculteurs à Gap, un bâtiment de plus de 2100 mètres carrés qui verra le jour en septembre 2023. 4 500 000 euros cofinancés par l'État, l'ADEME, la région, le département, mais aussi par la vente de l'actuel siège de la Chambre d'agriculture. Tous les services pour le secteur seront regroupés dans un seul et même endroit. Et c'est le symbole d'une agriculture vertueuse sur le territoire, selon Joël Giraud.
La Chambre d'agriculture des Hautes-Alpes, elle doit avoir une représentation qui permette à ce département, le premier département bio de France, qui a vraiment fait des efforts en termes de qualité absolument considérables, eh bien, de poursuivre son action au service de ce territoire et au-delà, je le disais, de faire en sorte qu'en les libérant d'une partie de cet investissement, il puisse y avoir plus d'actions en fonctionnement et notamment sur l'installation des jeunes agriculteurs. C'est un boulot que fait remarquablement bien la Chambre des Hautes-Alpes, plus que beaucoup de chambres d'ailleurs en France. Il y a beaucoup de jeunes agriculteurs qui sont venus grâce aux dispositifs spécifiques qui ont été mis en place ici et je souhaite que ça se poursuive dans les années qui viennent. Donc il fallait, je dirais, aider l'investissement pour que le fonctionnement puisse continuer, notamment sur des questions comme celle-là.
Le matin, Joël Giraud a également visité la cité administrative du Briançonnet. Le ministre aura aussi remis les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite à Michel Beaune, directeur général de la clinique pédiatrique La Guisane. Puis il aura aussi procédé à des inaugurations à Villars-Saint-Pancras et Orcières-Merlette.
On parlait de la grogne des agriculteurs, mais il y a aussi celle des chasseurs.
Alors qu'une nouvelle consultation publique est lancée dans les Hautes-Alpes quant à la chasse du tétralyre et du lagopède alpin, deux associations environnementalistes, la SAPN et la LPO, reprochaient un acharnement sur deux espèces vulnérables et appelaient la population à participer à cette consultation pour s'opposer à leur chasse. Une pratique parfaitement légale est strictement encadré, réagit la Fédération de la chasse. Elle défend par ailleurs son action de conservation des galliformes de montagne au travers de suivi, de réouverture de milieux, de suivi sanitaire, protection hivernale. Cette consultation n'est pas un débat pour ou contre la chasse, mais porte sur des modalités de gestion cynégétique, poursuit la FDC, qui invite les deux associations environnementalistes à la rejoindre dans des actions de conservation. Pour rappel, la chasse du tétralyre et du lagopède alpin dans les Hautes-Alpes avait été annulée ou suspendue par le tribunal administratif de Marseille en 2017, 2019, 2020 et 2021.
Grogne pour certains et sonnette d'alarme pour d'autres. Le secteur du bâtiment et des travaux publics redoute des jours sombres.
Après la crise de la Covid, il faut dire que le secteur n'est pas épargné désormais avec la flambée des coûts de l'énergie face au conflit russo-ukrainien. Du gaz ou de l'électricité utilisé en grande quantité pour fabriquer le ciment, les briques, les tuiles ou encore le carrelage. Conséquence, les prix s'envolent de 10 à 40% parfois. La CAPEB dans les Alpes du Sud redoute des trésoreries fragilisées, des marges compromises et surtout des entreprises qui perdraient de l'argent à tenir les marchés signés. Même son de cloche pour Nicolas Chabran. Le président de la Fédération du BTP dans les Hautes-Alpes veut donc alerter les clients, qu'ils soient privés ou publics, car il faudra accepter de mettre la main au portefeuille.
Pour les chantiers en cours, nous, ce qu'on a préconisé à nos adhérents, c'est qu'il faut qu'ils restent en contact avec le client, qu'ils expliquent leurs problèmes sur facture. Tel prix de matériaux avant la crise était à ce prix-là. Aujourd'hui, il est à ce prix-là. Donc moi, aujourd'hui, j'ai un surplus et il faut qu'on trouve une solution pour partager. Il n'y a pas 36 000 solutions. C'est soit l'entreprise est obligée de ne pas honorer la fin de son contrat ou l'entreprise va tout droit vers le dépôt de bilan. Donc voilà, on est obligé d'être ensemble et on est obligé de négocier au cas par cas avec nos clients.
Jean Castex, le Premier ministre, a présenté ce mercredi un plan de résilience. Il prévoit des aides ciblées pour les entreprises dont la facture d'énergie représenterait plus de 3% du chiffre d'affaires. D'ici la fin de l'année, elles pourront bénéficier d'aides couvrant la moitié du surplus énergétique. Autre mesure, de nouvelles formules de PGE, de prêts garantis par l'État, des reports de charges et le financement d'activités partielles de longue durée.
Les routes continuent d'acheminer vers la frontière ukrainienne des dons des habitants des Alpes du Sud.
Ce matin encore, c'est la seconde collecte effectuée auprès des Gapensais qui partira. Puis ce samedi, ce sera celle effectuée dans les 8 villages de la communauté de communes du Pays des Écrins, qui elle aussi partira pour la Roumanie, mais avec la particularité de revenir en début de semaine prochaine avec des réfugiés ukrainiens. Christophe Laurenceau et Thibaut Durand ont suivi pour Alpe 1 une journée de collecte. Reportage.
Les portes sont à peine ouvertes, déjà les dons affluent. Patrick est un habitant de Puy-Saint-Vincent. Quand il a su que la mairie des Vigneaux lançait une collecte pour la population ukrainienne, c'était une évidence pour lui, il fallait apporter sa pierre à l'édifice.
C'est des enfants, tous ces bombardements, ces femmes enceintes, puis tous ces victimes, quoi. Je connais des gens qui habitent en Ukraine en plus. Non, j'ai pas trop de nouvelles, mais ils habitent à Berdychev, c'est à l'ouest de Kiev en fait.
Derrière lui, Vincent, au Alpes.
C'est surtout que ça se rapproche de chez nous, c'est ça qui me touche. C'est que aujourd'hui c'est l'Ukraine et demain ça peut être nous, on peut être dans cette même situation, donc c'est quand même préoccupant.
Alors le cœur est là, dans les collectes, les dons sont nombreux.
Alors nous avons ici du matériel pour les personnes qui auraient des problèmes de santé, coudières, des genouillères, des béquilles, ensuite du matériel d'hygiène, des couches pour les enfants, de la nourriture pour les chiens.
L'Ukraine vit depuis plus de 15 jours sous le rythme des bombardements, dans des conditions précaires. Les images qui viennent rapidement dans la tête de Gilles Pierre, maire des Vigneaux.
Et les souffrances qui se dégagent pour tous ces gens qui sont maltraités, meurtris, blessés, et qui vivent dans des conditions très difficiles. On ne peut pas rester insensible à cette démarche.
Dès samedi, les dons partiront en Roumanie, ce n'est pas fini. Éric Apili, le directeur des services techniques de l'Argentière, l'ABC.
Et puis là, je pense très sincèrement qu'on s'inscrit dans une longue durée et que les gens vont de façon régulière apporter leur concours dans les semaines qui viennent.
Et la communauté de communes des Écrins a donc fait jouer sa carte de la solidarité, mais elle ne s'arrêtera pas à la frontière ukrainienne, car les deux minibus reviendront avec des réfugiés. Cyril Drujon d'Astro est le maire de Fraissinière et président de l'intercommunalité.
Freddy, qui s'occupe de la logistique, a contacté des médecins en Roumanie, des associations qui s'occupent de camps de réfugiés. Donc non, on ne connaît pas les gens. C'est-à-dire qu'il va y avoir... on va arriver dans un camp, déposer l'ensemble des matériels et puis voir qui peut et qui veut repartir pour être hébergé en France. On va mettre à disposition l'immeuble qui sert à héberger les saisonniers tout l'hiver, dès que la saison est terminée, pour pouvoir accueillir des familles le cas échéant et puis mettre en ordre de marche la Maison France Service pour les aider, parce qu'ils seront là pour 90 jours et au bout de 90 jours, il faut faire une demande pour pouvoir renouveler. Donc on va essayer de les accompagner aussi dans ces demandes-là, parce que très certainement, ils ne parleront pas français.
De son côté, la députée des Hautes-Alpes, Claire Boucher, a lancé un appel urgent. La population ukrainienne a besoin rapidement de pansements hémostatiques, le seul matériel qui ferait défaut aujourd'hui.
Merci Christophe. Ce vendredi, entre 8h et 16h, un point de collecte sera mis en place au sein même de la permanence de la députée Claire Boucher à l'Argentière, l'ABC.
On poursuit l'actualité avec une triste nouvelle pour l'avancée scientifique. C'est Alexandre, le dernier bouquetin des Écrins équipé d'un collier GPS, qui est mort.
L'animal de 7 ans a été retrouvé le 2 février dernier à Champoléon. Et c'est là la fin d'un programme initié en 2013 qui permettait de suivre ces animaux par géolocalisation. 93 bouquetins du massif en tout qui auront permis d'engranger de nombreux enseignements. Pas moins de 180 000 données géolocalisées et individualisées. Alors qu'est-ce qu'on apprend ? Eh bien que les bouquetins se déplacent plus vite qu'on ne le pensait. La migration saisonnière peut dépasser les 50 km en quelques jours. Une mobilité également en toute saison à travers des versants, des cols et même des glaciers. Cela a permis aussi d'en apprendre plus sur l'état sanitaire des bouquetins qui sont en contact avec de nombreux pathogènes transmis par la faune domestique et ce qui menace notamment la population.
On prend la direction maintenant d'un des poumons des Alpes de Haute-Provence, c'est la forêt de la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon.
Elle recouvre tout de même 63% de son territoire, c'est un quart des Alpes de Haute-Provence. Un poumon qui a le droit aujourd'hui à une nouvelle charte forestière. Les travaux entamés depuis 4 ans ont permis de définir 3 axes pour la prochaine feuille de route. Soutenir l'exploitation durable des forêts, valoriser le bois d'œuvre et d'énergie et faciliter l'aménagement du territoire. Un chemin clair tracé pour l'avenir selon le président Maurice Laugier autour de 14 fiches actions très concrètes.
C'est un peu la description de la stratégie de notre communauté de communes. Et l'idée, c'était aussi que nos élus s'emparent effectivement de ce dossier-là qui est très important. Et ça a été le cas. Notre conseil communautaire a validé cette charte forestière de territoire à l'unanimité. Donc ça mérite d'être souligné et ça donne le niveau d'engagement des élus. Et on a poursuivi très concrètement par un appel à projet de notre communauté de communes en le dotant de 50 000 euros pour aider les communes à ce qu'elles prennent en compte ces développements et pour qu'elles puissent s'inscrire dans les thèmes de la charte. L'exemple concret, c'est la protection par exemple des massifs contre l'incendie. C'est un thème qui est revenu il y a quelques jours dans notre territoire avec de nombreux incendies. Par exemple, c'est le développement des pratiques agricoles. Qui est un autre élément, et puis, je vous le disais, susciter la commande en bois pour la construction, et le développement des chaufferies.
Dans l'actualité, la citadelle de Sisteron qui ouvre de nouveau ses portes au public à compter de ce samedi et jusqu'au 13 novembre. Les visiteurs sont invités à découvrir ou redécouvrir ce haut lieu touristique et culturel des Alpes de Provence. Une nouveauté cette année avec un pont-levis dit à zigzag du 19e siècle dont la reconstitution à l'identique unique en France vient de s'achever. Bien entendu, les incontournables toujours au rendez-vous en allant de la chapelle Notre-Dame du Château aux 258 marches de l'escalier souterrain. En passant le Théâtre de Verdure et son festival lors des Nuits de la Citadelle. Notez finalement que le site est ouvert tous les jours, sans interruption, durant toute la période, avec des fluctuations des horaires selon les mois.
Alpe 1 Sport. Alpe 1 Sport.
Et encore de bonnes notes pour les Diables Rouges de Briançon.
Poule de maintien pour la Ligue Magnus. Les Diables Rouges de Briançon sont mathématiquement rétrogradés en division 1 la saison prochaine, malgré cette victoire hier soir face à Anglette 2-1 en prolongation. Nouvelle rencontre ce soir face à Nice.
Une dernière course pour un globe de cristal.
Après la mauvaise opération du week-end dernier à Reiteralm en Autriche et une décevante 22e place, Terence Chiknavorian n'a plus son destin en main. En effet, le champion olympique Ryan Reguez a profité de cette déconvenue pour prendre 41 points d'avance en tête du classement général de la Coupe du Monde de ski cross. Tout se décidera ce samedi à Vézona en Suisse où l'Ubaïen devra récupérer son retard tout en gardant un œil sur son compatriote Bastien Midol qui le talonne avec le même nombre de points de débours.
Vous êtes témoin d'un événement ? Contactez la rédaction sur alpe1.com ou au 04 92 40 12 20.